Permettez-moi de vous interrompre moins de 60 secondes. J'ai une annonce qui va vous intéresser. Le secret du succès des plus grands entrepreneurs réside dans la puissance de leur réseau. Pourtant, très peu d'entre vous le prennent au sérieux. Mais bonne nouvelle, jeudi 16 mai de 19h à 23h30, notre 9e édition du Meetworking aura lieu en plein cœur de Paris sur les Champs-Élysées. Un événement rassemblant 250 entrepreneurs. Parfait pour échanger, partager et rencontrer d'autres entrepreneurs et y trouver votre dose de stratégie, conseils, contacts et motivation. Au programme, des conférences centrées sur les piliers de votre activité, vente, stratégie et état d'esprit, un cadre prestigieux, des intervenants experts de leur domaine à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et un apéro dînatoire pour les plus gourmands. Ce n'est pas juste un événement, c'est une chance de propulser votre activité avec des conseils éprouvés et un réseau de qualité. Attention, il reste moins de 50 places. Je vous invite donc à réserver votre place maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, en consultant notre site podcastledeclic.fr ou en cliquant sur le lien dans notre bio Instagram. Merci de votre confiance, hâte de vous y voir et maintenant, place à notre épisode du jour.
Quand j'ai traversé le Sahara, j'ai eu un véritable choc esthétique et l'esthétisme est devenu une valeur cardinale de ma vie, mais également dans ma vie personnelle. L'esthétisme et le confort de vivre dans l'esthétisme est crucial, c'est presque spirituel. La plupart des entrepreneurs sont utilitaristes et sous-estiment le poids de l'esthétisme sur des éléments non mesurables, en particulier donner envie. Je pense que la magie qui existe autour de la marque Voyageurs du Monde, elle vient grandement de ça. Et c'est ça, je crois, qui m'a beaucoup porté dans ma vie entrepreneuriale et personnelle.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Jean-François.
Bonjour.
Comment tu vas ?
Très bien.
Eh bien écoute, superbe, très content de t'avoir ici. Merci de nous accorder ton temps. Je regardais un petit peu ton parcours tout à l'heure en détail et on échangeait encore en off il y a un instant et tu as réussi en quelques phrases à me mettre bouche bée par rapport à un des projets, un des concepts que tu as développé également. Je vais te présenter rapidement comme j'en ai pour habitude. Merci également à Nadir de nous avoir mis en relation pour pouvoir faire cet épisode. Donc, Jean-François, tu es le PDG du groupe Voyageurs du Monde qui a été racheté en 1996, qui est un acteur majeur du tourisme, employant aujourd'hui plus de 1400 personnes. Tu es également l'ancien président de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Ta vision va au-delà de la gestion d'une entreprise de voyage, car ta conviction est de montrer qu'il est possible de concilier réussite économique et éthique. D'ailleurs, tu es le coprésident du Réfectorio à Paris, dans les Cripes de la Madeleine, qui est un restaurant étoilé uniquement dédié et réservé aux personnes en difficulté, qui est complètement gratuit. Tu es aussi le cofondateur avec ton fils Tom de la ferme du Perche. Pas mal de cordes à ton arc, d'autres également qu'on va découvrir, je pense, au fur et à mesure de cet épisode. Hâte justement de te poser un bon nombre de questions. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme je le fais à chaque fois, je tiens à remercier également un de nos auditeurs, Perky en l'occurrence, qui a mis 5 étoiles sur Apple Podcast et qui nous dit « Qualité des invités plus que premium, félicitations pour les histoires inspirantes que tu dévoiles chaque semaine, Alec. » Bah, écoute, Jean-François, on va démarrer. Je pense qu'une fois de plus, grâce à toi, on aura une histoire inspirante. Je pense qu'on a ici un invité premium également. J'ai envie de revenir sur tes débuts.
On va essayer d'être à la hauteur.
Magnifique. Let's go, avançons là-dessus, mais je pense qu'on le sera comme à chaque fois. J'ai envie de revenir justement sur les débuts de ton parcours. À tout juste 18 ans, tu décides de parcourir la Chine seul. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça et qu'est-ce que ce voyage a éveillé en toi ?
En fait, j'ai toujours été un grand passionné d'histoire géo quand je faisais mes études. J'avais 3 matières préférées, l'histoire géo, les mathématiques et la philosophie. Et le goût des voyages m'a toujours habité, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais passionné de culture étrangère, de civilisation étrangère, de découvrir des nouveaux lieux, des nouvelles cultures, des nouveaux endroits. Et cette année-là, quand j'avais donc 20 ans, c'était la première année où le tourisme individuel était possible en Chine. Mmh. Jusqu'à cette date-là, c'était en 80, quelle année c'était 63, ça devait être en 90, 91, quelque chose comme ça. Le tourisme en Chine n'était possible que lorsque tu voyageais en groupe, quoi, avec des groupes constitués, des itinéraires constitués. Et comme par hasard, d'ailleurs, c'est devenu le concept clé de Voyageurs du Monde en 96, quand on l'a repris, on l'a positionné entièrement sur le voyage individuel sur mesure. Et donc, je suis parti en Chine avec deux amis, pratiquement pendant un mois et demi. On a parcouru toute la Chine. C'était pas facile parce que les conditions de voyage étaient très 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 difficiles. Personne parlait chinois, personne parlait anglais, en tout cas parmi nous, hein. Je veux dire, ils parlaient ni français, ni anglais, ni quoi que ce soit. Donc, fallait se débrouiller, quoi. Donc, c'était une expérience très 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 intéressante. Et c'était la Chine de Deng Xiaoping, hein.
Ouais, non, complètement, complètement. Et justement, à ce moment-là, quand tu fais ce voyage, qui plus est relativement jeune, qui plus est dans des conditions assez particulières, est-ce que ça éveille quelque chose en toi, le goût du voyage peut-être, le goût de l'aventure? À ce moment-là, est-ce que tu es déjà dans l'état d'esprit aussi entrepreneurial ou pas encore?
Alors pas du tout, je suis pas du tout dans l'esprit entrepreneurial. J'ai toujours un goût fou pour les voyages, l'histoire géo. J'ai des parents profs et je voyais pas d'autre voie que d'être prof si je voulais faire de l'histoire géo. Donc comme j'avais pas tellement envie d'être prof, eh ben j'ai fait tout à fait autre chose. J'ai travaillé dans la finance et dans l'information financière au début de ma vie professionnelle. Mais je n'avais pas du tout l'esprit d'entrepreneuriat. L'esprit d'entrepreneuriat, il m'est venu parce que le fondateur d'une entreprise, qui est la première entreprise que j'ai dirigée, qui s'appelait Promatif, qui était des systèmes d'aide à la décision très pointus, mathématiques, d'investissement, de choix d'investissement sur les marchés dérivés qui venaient d'exister. Ce monsieur qui était le patron d'une charge d'agent de change qui s'appelle Georges Py, d'ailleurs c'est très marrant qu'on parle de lui aujourd'hui parce qu'il vient de décéder. Je vais à sa cérémonie dans 2 jours d'enterrement. Et ben il a détecté en moi des capacités entrepreneuriales et il m'a mis très vite, au bout de 6 mois, à la tête d'une entreprise. Voilà, c'est comme ça que je suis devenu entrepreneur. Mais j'avais absolument pas programmé ça, absolument pas.
Donc, ce que tu évoques ici, c'est que ça tombe un petit peu dessus, le fait d'être chef d'entreprise et d'entreprendre.
Ouais.
Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, on le voit notamment avec les émissions qu'on voit à la télé, telles que Qui veut être mon associé, ou même ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est assez à la mode. À l'époque, quand relativement jeune, on a une responsabilité telle que tu as vécue qui nous tombe dessus, comment est-ce que tu le vis? C'est quoi les challenges auxquels tu fais face à ce moment-là?
Ben en fait, je l'ai vécu de façon très spontanée, c'est-à-dire que j'étais donc salarié d'un agent de change. Un des plus gros agents de change de l'époque. Ce partenaire de cet agent de change me met à la tête d'une de ses filiales. Moi, je pense que j'avais un tempérament naturel d'entrepreneur. Rien ne me faisait vraiment peur. J'avais une soif d'action très forte, que ce soit dans la gestion, dans le commercial, dans le marketing, dans les outils, dans l'organisation, dans le management. C'était un peu naturel chez moi. Grâce à lui, ben, j'ai découvert ces qualités-là. Et d'ailleurs, cette entreprise qui s'appelait Promatif à l'époque a très vite été à la fois filiale de mon agent de change Tufir à Viipi et d'une autre société d'information financière qui s'appelait Fininfo, qui était beaucoup plus grosse à l'époque. Et on est très vite devenu concurrent de cet actionnaire. Donc, ça devenait un problème. Et donc, on a fusionné les deux entreprises. La nôtre faisait peut-être 10% de la taille de Fininfo, qui était beaucoup plus grand que nous. Et là, j'ai eu un deuxième coup d'accélérateur dans ma vie. C'est que le PDG fondateur de Fininfo, qui a été mon second patron, qui s'appelle Gérard Jolin, avait recruté un Américain pour diriger son entreprise. Et voulait donc absorber notre entreprise et que je devienne son adjoint, en clair, hein. Moi, ça me convenait très bien. Et mes équipes de Promatif ont refusé cela. Elles ne voulaient pas travailler sous les ordres de cet Américain que personnellement j'appréciais. Et donc, je suis allé voir le fondateur de Fininfo et je lui ai dit, écoutez, Gérard, je suis vraiment désolé, mais je ne vais pas pouvoir venir parce que mes équipes n'ont pas envie de faire ça. Donc, on va se diriger vers une nouvelle voie. Et là, 24 heures plus tard, à ma grande surprise, il me dit, bon, écoutez, Jean-François, j'ai bien réfléchi, c'est vous que je vais mettre DG d'entreprise fusionnée. Alors là, j'avais quand même j'avais 23 ans, 24 ans, je me souviens plus bien. C'était quand même une entreprise qui avait déjà 70 ou 80 salariés, qui allait se coter en bourse, qui était très rentable. Et donc, Gérard Jeannin a osé me mettre à la tête de cette entreprise. Alors, j'avais quand même une expérience de manager très, très, très limitée. Et derrière, j'ai dirigé cette entreprise pendant 10 ans et on a fait un carton, quoi. Voilà. Et donc, je dirais que tout ce qui peut faire peur à un entrepreneur, c'est-à-dire prendre des risques, être exposé, pas avoir de contrat de travail, être un mandataire social révocable ad nutum, parce que ce n'était pas en plus mon entreprise, hein, donc j'étais à la fois entrepreneur sans capitaux, entre guillemets. Bah, en fait, c'est des questions qui ne m'ont pas du tout traversé l'esprit, quoi. Moi, j'ai pris le job et puis j'ai agi, quoi. Voilà. Et puis ça a très très bien fonctionné, quoi. Voilà.
Et justement, après une carrière donc, qui fonctionnait super bien dans le domaine de la finance, tu grimpes les échelons, tu prends le job, ça se passe super bien comme tu l'évoques. À un moment donné, tu fais un voyage dans le Sahara, sauf erreur, qui t'a poussé à changer de vie. Quel est ce moment de bascule finalement et qui t'a convaincu de suivre ta passion pour le voyage?
Bah, en fait, j'ai jamais perdu de vue. J'ai jamais perdu de vue ma passion pour les voyages. Donc, quand j'étais à la tête de Fininfo, qui était une entreprise d'information financière, une espèce de Bloomberg européen, quoi, hein, un petit Bloomberg européen, bah, je voyageais beaucoup. J'achetais d'ailleurs mes voyages, c'est très intéressant pour la suite, tu verras, chez Carrefour des voyages, qui était l'ancien nom de Voyageurs du Monde, parce que j'adorais déjà le concept. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu deux facteurs qui m'ont poussé à changer de vie. Le premier, c'était que on avait le rêve secret avec mes amis dirigeants de Fininfo de racheter l'entreprise à son fondateur. Et on a échafaudé je ne sais combien de montages pour pouvoir le faire. Et pour différentes raisons, ça n'a pas pu se faire. À la fois parce que sûrement qu'on manquait un peu de moyens et que le fondateur voulait bien, je pense sincèrement, nous céder l'entreprise, mais peut-être pas aussi vite que nous, on aurait voulu. Ce fondateur qui était Gérard Jeannin, hein, que je rappelle son nom, parce qu'il a été très important dans ma vie professionnelle. Et donc, cette dichotomie de ce choc personnel, spirituel, esthétique, profond que j'ai vécu en traversant le Sahara pendant un mois et demi. Là, pareil, en individuel, avec notre propre véhicule, les deux amis, plus le fait que ben, on avait atteint un âge, on avait une trentaine d'années, où on voulait être chez nous, entre guillemets, tu vois, on voulait plus travailler pour d'autres gens, a fait qu'on a franchi le Rubicon, c'est-à-dire qu'on a commencé par investir dans un petit voyagiste qui s'appelait Désert, qui a d'ailleurs eu très très graves difficultés très vite, parce que 90% de son chiffre d'affaires se faisait sur l'Algérie. Et l'année où on a investi dans cette entreprise, c'est-à-dire en 92, oui, mon voyage en Chine, c'est, ça y est, je m'en souviens, c'est 83, c'est pas du tout 91. Mon voyage en Chine, c'est 83, j'ai 20 ans, et je fais 10 ans chez Fininfo, et en 92, j'investis dans Désert, où on apprend ce métier. Fondamentalement, et puis en 96, on rachète Voyageurs du Monde, donc là c'est beaucoup plus gros, à son fondateur Claude Solière, qui vient d'ailleurs de décéder aussi, comme quoi ce podcast est très. Le timing de ce podcast est très intéressant. Et ben là, on change de vie à la fois parce qu'on voulait être entrepreneur et parce que moi, je voulais absolument aller dans le voyage. Et mes amis qui dirigeaient Fininfo avec moi m'ont suivi parce qu'ils voulaient absolument être entrepreneurs eux-mêmes. Et donc, que ce soit Lionel Abbas, Alain Capestan, Frédéric Moulin, Loïc Mainviel et quelques autres, Ils m'ont suivi dans cette aventure et on a repris Voyageurs du Monde, au début que la moitié du capital, et puis petit à petit on a tout repris. Puis on en a fait l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui, qui avait des fondamentaux très forts déjà à l'époque, hein, comme ceux de la vente directe, le fait d'avoir des spécialistes pays, mais qui était assez peu positionné sur le voyage individuel sur mesure, qui est devenu le grand produit de Voyageurs du Monde.
Complètement.
Mais c'est vrai que quand j'ai traversé le Sahara, j'ai eu un véritable choc spirituel et émotionnel qui m'a dit au fond de moi-même qu'il fallait que je change de vie et que je revienne dans ce qui me faisait ma passion, c'est-à-dire les voyages, même si j'étais dans un secteur très rémunérateur, on gagnait très bien notre vie, très rentable, avec une très très forte valeur ajoutée, et que tout mon entourage me disait que partir dans les voyages qui étaient systématiquement des entreprises déficitaires, très peu rentables, était une folie totale. Tout le monde m'a dit de ne pas le faire. Tout mon entourage m'a dit de ne pas le faire. Et on l'a fait quand même. Voilà. Et puis on a fait cette entreprise à la dimension qu'on connaît aujourd'hui, qui voilà quoi.
Ouais. On va en parler justement de cette dimension et de ce qu'est aujourd'hui Voyageurs du Monde. Tu évoques le fait, donc en 1996, toi et quatre de tes amis, vous avez pris cette décision de reprendre Voyageurs du Monde, l'entreprise qui à l'époque était déjà quand même bien établie.
Exact.
Pourquoi cette entreprise précise et qu'est-ce qui fait que vous prenez cette décision?
Alors, cette entreprise précise, je dirais qu'il y a d'abord une raison fondamentale, c'était que le fondateur de Voyageurs du Monde, Claude Sollière, avait décidé qu'il voulait céder l'entreprise. Donc déjà, il fallait que ça tombe bien. Et puis ça tombait, pour moi, ça pouvait pas être mieux parce que c'était une entreprise de voyage que je préférais. Avec Nouvelles Frontières, je pense, de Jacques Maillot, qui est devenu un ami très proche et qui est administrateur de Voyageurs du Monde, d'ailleurs. Parce que c'était une entreprise qui vendait des voyages. Alors certes, à l'époque, elle vendait des circuits, elle vendait des vols secs, elle vendait des groupes, elle vendait très peu de voyages individuels, mais elle vendait des voyages avec une âme. On n'était pas sur des produits de séjour soleil, type Club Med, qui par ailleurs sont très bien, hein, c'est pas le problème. Mais c'est pas ce que j'aime. Et moi, j'ai jamais été un entrepreneur ou un marketeur qui était capable de penser correctement le marketing d'un produit qu'il n'aimait pas. Il y a des gens qui sont capables de ça, alors hein, moi, pas du tout. Moi, je suis à l'opposé total. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a construit pendant des années, ça a été ce que j'appelle un marketing de l'offre. Ça n'a jamais été un marketing de la demande. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on pensait qu'il fallait faire pour les clients, et non pas ce qu'ils voulaient, entre guillemets. Et ça a fonctionné très bien. Voilà, donc en fait, c'était...
Je rebondis sur le sujet, excuse-moi, je te coupe. Souvent, on dit qu'il faut absolument faire un marketing du coup de la demande et pas un marketing de l'offre. Pourquoi? Parce qu'il faut créer sur le marché ce que les gens veulent et pas finalement ce qu'on pense que les gens veulent. Mais
Exact, exact.
est-ce que finalement pour vous, ça a aussi bien marché parce que justement, vous étiez passionné de voyage, pleinement aligné et que vous incarniez parfaitement le client qui était votre cible?
Alors, oui, bien sûr, on était des passionnés de voyage. Moi, je trouvais pas ce que je voulais sur l'offre des voyagistes par rapport à ce que je voulais faire. Et donc, j'ai poussé pour construire un produit qui corresponde à ce que nous souhaitions avoir et qui n'existe pas sur le marché. Alors quand vous faites ça, c'est pas que vous êtes en contradiction avec la demande des clients, c'est que vous proposez bel et bien quelque chose que les clients veulent puisque ça fait un carton. Sauf qu'ils sont pas capables de l'exprimer. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup plus risqué, mais si ça marche, c'est beaucoup plus efficace parce que vous êtes beaucoup plus disruptif. L'exemple le plus spectaculaire que je trouve dans le marketing de l'offre, moi, je trouve que c'est l'iPhone. Qui a demandé à avoir un iPhone? Qui a demandé à avoir des petites touches comme ça avec des applis, etc., etc., et toute l'interface utilisateur de l'iPhone? Personne. Et pourtant, c'est un succès mondial. Mais à toute petite échelle, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas croire que les clients pensent toujours ce qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont pas la créativité suffisante. Et donc, c'est comme ça qu'on a pensé voyageur, quoi. Alors, beaucoup moins sur la deuxième branche, qui est la branche aventure, où on a investi beaucoup, mais où le marketing de l'offre et de la demande existait déjà. Et on a perfectionné les choses, etc. Mais sur le voyage individuel sur mesure, avec un très très haut niveau de service, ou avec des angles différents qu'on a sur d'autres marques, eh ben, on a vraiment inventé les choses, quoi, très clairement.
Complètement, complètement. On reviendra aussi sur cette partie qui est extrêmement intéressante. En attendant, j'ai envie de parler un petit peu de reprise d'entreprise finalement, parce que y a deux grandes voies dans l'entrepreneuriat, la création ou la reprise ou alors l'intégration. Ça en fait trois effectivement. Reprendre une entreprise, notamment avec des amis, c'est relativement challengeant, notamment en ce qui concerne les prises de décision potentiellement ou la répartition des rôles. Comment vous avez géré ces aspects pour assurer une transition fluide et maintenir une croissance tout en maintenant une cohésion entre justement les différents associés constituant cette nouvelle entreprise? Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
Alors, il y a plusieurs sujets à la cuivre. Déjà, nous, on a cumulé toutes les expériences, entre guillemets, de création d'entreprise. On a racheté Voyageurs du Monde, mais on a lancé Comptoir des Voyages. Certes, on est parti d'une base avec Désert et Comptoir d'Islande, mais tout le concept de Comptoir des Voyages, on l'a créé. Donc, on a toute l'histoire de notre entreprise, c'est un mélange entre la croissance interne et la croissance externe. En gros, la moitié de notre croissance, les deux tiers de notre croissance, ça a été de la croissance interne. Et un tiers de notre croissance, de la croissance externe. En gros, la clé de la croissance externe, c'est de respecter les ADN des marques. Moi, je suis contre les synergies, par exemple. Je suis complètement disruptif là-dessus. Je pense qu'il ne faut surtout pas aller fusionner les services informatiques, les services comptables, les services de paie, les services de ceci, les services de cela. Pour moi, tout ça, c'est catastrophique. Vous perdez l'ADN de la boîte, vous ne savez plus qui elle est, etc. Et donc, nous, on a des synergies intellectuelles. On n'a pas de synergie opérationnelle. Parce qu'en réalité, les synergies opérationnelles, elles vous rapportent de l'argent en apparence, mais elles vous coûtent beaucoup plus de l'autre côté, en tout cas dans notre métier. Je ne dis pas que c'est impossible dans d'autres métiers. Dans l'automobile, on a bien vu que ça avait fonctionné. Mais dans notre métier, moi, je pense que c'est complètement contre-productif. Alors ensuite, pour maintenir la cohésion des associés fondateurs, il y a en gros deux types de profils chez nous tous. Il y a ceux qui sont de véritables entrepreneurs, comme Alain Capestan ou Lionel Abbas, ou moi-même. Eh ben, on avait suffisamment de terrain de jeu pour bien se répartir la tâche, en particulier en termes d'activité. Donc en fait, Alain Capestan, par exemple, a géré Comptoir des Voyages et Nomade Aventure, Lionel Abbas a géré Terre d'Aventure, et moi j'ai géré Voyageurs du Monde. Par ailleurs, c'est vrai qu'on avait des compétences transversales différentes. Alain, il est très très fort en finance. Lionel, il est très bon en commerce, en commercial. Moi, un peu plus sur le marketing ou la com. En termes de sensibilité, on va dire, même si les frontières sont jamais complètement étanches, hein. Et donc, entre les activités et les fonctions transversales, on a naturellement trouver des terrains de jeu pour s'exprimer les uns les autres et que ça fonctionne correctement pendant 30 ans. Et puis, je dirais qu'on a une culture du consensus aussi, c'est-à-dire que sur les décisions fondamentales et stratégiques, on est très souvent d'accord parce qu'on a le même ADN. Et puis, quand on n'est pas d'accord, eh bien, on passe le temps qu'il faut pour trouver un accord. Voilà. Voilà comment on a pu gérer ça, quoi. Mais ce n'est pas toujours simple, hein, malgré l'amitié, la proximité, la sincérité, évidemment, chacun a ses sensibilités différentes, a ses égos différents. Faut juste considérer que c'est un travail à ne pas négliger et qu'il faut le traiter.
Complètement. Justement, en parlant de challenge ou de moments où c'est plus compliqué que d'autres, est-ce que tu as une anecdote en particulier qui peut être liée à des prises de décision ou à de la complémentarité entre associés par rapport justement à des avis qui peuvent diverger ou à un autre élément? Souvent, lorsque l'on a des podcasts, on raconte les histoires avec uniquement la phase la plus intéressante, les grands chiffres, la belle croissance, etc. Mais j'aime également dans le déclic faire comprendre aux entrepreneurs qui nous écoutent que au quotidien, tous autant que nous sommes, que l'on est zéro salarié, 10 salariés, 100 salariés, 1000 salariés, X chiffre d'affaires, X succursale, X franchise, peu importe le business dans lequel nous sommes, on fait face au quotidien à des challenges et finalement, être entrepreneur, c'est aussi faire face à des problèmes, très régulièrement d'ailleurs, quasi quotidiennement. Dans ton cas, est-ce qu'il y aurait une anecdote en particulier qui a marqué ton parcours entrepreneurial, que ce soit avec Voyageurs du Monde ou avec une des activités que tu as pu développer, tu aurais envie de nous partager?
Je dirais que je ne sais pas facilement te répondre à ça parce que des anecdotes, j'en ai 500. Alors, laquelle je vais te prendre? Je dirais que par exemple, je peux te raconter qu'on n'était pas d'accord, Alain et moi, sur le prix d'acquisition de Terre d'Aventure. Donc, ça a donné lieu à des débats très longs. Et on avait un système. Ou sur les décisions stratégiques, l'un d'entre nous avait un veto possible. Bon, ça faisait 5 ans qu'on avait commencé l'aventure ensemble. On n'avait jamais utilisé l'un et l'autre veto. Et là, moi, je l'ai utilisé. J'ai dit là, non, c'est mon veto, c'est pas possible de faire ça, etc., etc. Et ça n'a pas posé de problème particulier. D'ailleurs, il a accepté parce que c'était la règle qu'on s'était fixée. Et puis quand Lionel Abbas nous a rejoint, parce qu'il l'a pas fait tout de suite. Là, on a changé la règle et on a décidé de faire une voix à un homme. Ça n'a rien à voir avec le capital, rien à voir avec les fonctions. C'est une voix à un homme. Donc, quand on avait un désaccord, on votait. Alors, je vais te raconter une anecdote. Oui, si, il y en a une qui me revient, qui est très intéressante. À un moment donné, on a fait une opération sur le capital absolument structurante, très importante. Et l'un d'entre nous n'était pas d'accord. Bon, donc on a voté, et le résultat a donné 4 voix pour, 1 voix contre. Le problème, c'est que celui qui était contre était un des éléments clés de notre parcours. Et moi, ça me gênait qu'il soit contre. Ça me gênait profondément. Donc, plutôt que d'appliquer la décision, qu'il acceptait d'ailleurs, hein, qu'il acceptait complètement, hein, parce que c'était la règle du jeu qu'on s'était fixé ensemble. Bien en fait, on l'a pas appliqué. On a décidé de différer la décision de 6 mois. C'est intéressant comme démarche. C'était volontaire, tu vois, c'était unilatéral entre guillemets. Eh bien, de différer cette décision de 6 mois, en fait, a permis de finir à un consensus, c'est-à-dire qu'on n'était plus dans un problème de vote. On était 5-0, quoi. Voilà. Donc, voilà une anecdote intéressante. Je dirais que ce qui est le plus important dans ces histoires-là, c'est de savoir accepter un point de vue différent sans que ce soit un conflit. Ça, c'est vraiment un travail sur soi-même qu'il faut faire. Et de mettre son ego de côté. Alors moi, je dirais que c'est quelque chose que j'ai relativement fait facilement parce que dans ma vie, j'ai été confronté à des situations parfois, dans ma vie personnelle, hein, à des situations très 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 compliquées et j'ai été obligé de m'instruire sur comment gérer des situations compliquées. Et psychologiquement, hein, j'entends, hein, tu vois, Alex, ce que je veux dire. Et ceux qui m'ont le plus appris ça, c'est les bouddhistes tibétains. Les bouddhistes tibétains sont des génies du fonctionnement de la psychologie humaine. Et donc, on n'est pas du tout dans une problématique religieuse, hein, on oublie la religion, ce n'est pas le sujet, hein. Les Tibétains sont les gens les plus forts au monde pour comprendre les causes de la souffrance psychique humaine et des remèdes à proposer. C'est les meilleurs du monde. En fait, ils sont aussi bons là-dessus que les Américains sont bons sur le business. Tu vois, je sais pas si tu as déjà rentré dans une librairie américaine quand tu es aux États-Unis, mais enfin, c'est délirant. C'est-à-dire que tu as à peu près 70% des rayonnages qui sont consacrés à business, management, monnaie, etc. Bon, ben, les Tibétains, c'est 100% sur les causes, enfin, l'analyse du fonctionnement psychologique humain. Voilà, pour faire court. Et c'est pas rien parce que au début du siècle dernier, les Tibétains avaient édité 70% des livres édités en Asie, hein, pour te situer. Donc, moi, je sais que personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à accepter des points de vue différents, des situations pas simples, etc., etc., etc. Que ce soit d'ailleurs dans ma vie personnelle ou professionnelle, hein.
Complètement.
Donc, en fait, si tu veux, moi, si je pouvais donner un conseil clé à ceux qui veulent être entrepreneurs, ne considérez jamais que vous avez raison par principe. Et malheureusement, c'est une maladie très commune chez les entrepreneurs.
Ouais, surtout quand on commence à avoir
Très commune.
un semblant de réussite ou une perception qu'on a de la réussite,
Ah
ouais.
bah bien sûr, ah bah bien sûr, bien sûr. Et une autre chose aussi que je pense profondément et que m'a appris par exemple une autre de mes passions qui surprend parfois les gens, qui est celle du poker. Moi, je joue pas du tout au poker pour l'argent, je joue au poker pour la finesse d'analyse mathématique du système. Bon. Il faut jamais analyser un résultat, quel qu'il soit, positif ou négatif, en fonction de son résultat. Jamais. Faut toujours prendre le recul. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une réussite fantastique, mais vous n'y êtes pas pour grand-chose. Et au contraire, vous avez une réussite difficile, mais vous avez été très bon. Alors c'est compliqué, hein? C'est compliqué, mais il faut s'astreindre à faire cela. Et ça vous rend beaucoup plus humble. Et moi je dirais, dans l'humilité, qui est un truc clé pour pouvoir accepter le processus mental permanent de la remise en cause, ben, plus votre notoriété monte, hein, plus vous devez être humble. Et combien j'ai vu d'entrepreneurs dont la notoriété a explosé et qui ont pété les plombs, qui ont complètement pété les plombs. C'est compliqué, mais c'est nécessaire, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez rester lucide, si vous voulez être heureux, si vous voulez rester bienveillant, pas être arrogant parce que vous réussissez trop, on est vite arrogant, hein. Et moi, j'ai été parfois taxé d'être arrogant parce que j'expliquais la vie à tout le monde sur des sujets que certes que je maîtrisais très bien, mais je n'y mettais sûrement pas la bonne forme, et donc j'étais perçu comme arrogant. Bah ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça coupe la discussion.
Complètement. Et justement, tu dis un mot comme ça dans la phrase qui peut passer de manière inaperçue, mais tu dis j'ai souvent été taxé d'être arrogant. Donc, tu as souvent dû payer le prix du fait d'être arrogant. Qu'est-ce que tu veux dire par là pour celles et ceux qui peut-être justement se lancent ou sont déjà lancés, commencent à avoir des résultats et vont parfois, et tu as raison,
Alors,
bah, commencer à penser qu'ils sont intouchables.
en fait, il y a deux types d'arrogance. Il y a l'arrogance qui est perçue parce que tu connais très 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 bien un sujet et donc t'expliques comment il faut faire. Bon. Et c'est celle-là que moi j'ai subi très clairement, même si je dirais que ça a été surtout vrai les 15 premières années de ma vie professionnelle chez Voyageurs du Monde, et que ça l'est beaucoup moins depuis 15 ans, parce que j'en ai pris conscience et donc j'ai fait attention. Ce qui ne signifie pas que j'ai changé d'avis sur mes convictions et mes explications. Simplement, en tout cas, j'ai tenté de changer la forme. Tu vois, je vais te donner deux exemples. Sur la valeur ajoutée et la distribution des voyages individuels, je pense savoir à peu près très bien ce qu'il faut faire. Et je pense que d'autres systèmes qui ont été organisés n'étaient pas bons. Et je l'ai expliqué, je l'ai parfois un peu expliqué à mes confrères de façon un peu donneur de leçons pendant quelques années. Alors certes, j'avais raison, mais ce n'est pas une raison pour être donneur de leçons. Donc là-dessus, pendant quelques années, j'étais pas très bon. Et puis, tu vois, plus récemment, je suis devenu sûrement quelqu'un d'assez connaisseur de la problématique des voyages, de l'écologie et de l'aérien, toute la problématique carbone. Bon, bah, je connais le sujet par cœur, très très bien, je le maîtrise très bien, mais j'essaye de l'expliquer de façon pédagogique, constructive à ceux qui ne le font pas. Et ça passe mieux. Mais je dirais qu'avec l'âge, tu grandis en maturité. Alors évidemment, moi, ce que je peux dire à tous les jeunes entrepreneurs qui vont se lancer, ben, essayez d'être tout de suite comme je suis devenu et pas comme j'étais il y a 10 ou 20 ans. Quoi. Il y a 15 ou 20 ans. Essayez. Mais on ne s'en rend pas toujours compte. C'est-à-dire qu'en fait, moi, au fond de moi-même, je n'étais pas arrogant. C'est là que je ne me sentais pas arrogant. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'arrogance. Après, il y a des gens vraiment arrogants. Vraiment arrogants. Moi, je ne me suis jamais senti arrogant. J'étais perçu comme arrogant, mais je ne me le sentais pas. Je ne le vivais pas. Je ne méprisais personne ou ce genre de truc. Mais il y a malheureusement des gens, mais ce n'est pas vrai que pour les entrepreneurs. Hein. C'est vrai pour les artistes, pour les politiques, pour tous les gens un peu connus, qui, parce qu'ils sont connus, se prennent pour des grandes stars. Ça n'a pas beaucoup de rapport, quoi.
Complètement. J'ai envie de revenir un petit peu sur le sujet justement de Voyageurs du Monde. J'ai pas mal de questions sur la gestion et le développement de cette entreprise telle qu'elle est aujourd'hui et toutes les opportunités aussi que ça a créé derrière. Avant qu'on rentre dans ce sujet-là, est-ce que pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne connaissent pas Voyageurs du Monde, tu peux nous expliquer quelle est la mission de Voyageurs du Monde?
Alors, en quelques mots, on a deux grands métiers. Le métier du voyage individuel sur mesure avec un très haut niveau de service qui est incarné par la marque Voyageurs du Monde. Donc, Voyageurs du Monde, c'est à la fois un groupe et une marque, une société. Mais on a aussi un deuxième métier qui est celui du faire du voyage d'aventure, essentiellement à pied ou à vélo. Alors, c'est la caractéristique clé, c'est que c'est du voyage, c'est jamais des séjours de détente. C'est 700 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une vingtaine de marques, implantées dans différents pays, France, Suisse, Belgique, Canada, États-Unis, Europe centrale, et quelques pays scandinaves. C'est 5 marques phares, Voyageurs du Monde et Comptoir des Voyages, qui est plutôt positionné sur un créneau qu'on qualifie d'immersion, avec des voyages plus abordables que ceux de Voyageurs du Monde. Et Voyageurs du Monde, c'est le créneau du voyage individuel avec un très 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 haut niveau de service. Bon. Et de l'autre côté, l'aventure, où tu as Terre d'Aventure, qui est le grand voyagiste européen du voyage à pied, mais tu as également Nomad Aventure, qui est plutôt positionné sur des voyages un peu plus cool sur le plan physique, mais également sur une approche du voyage individuel aventure qui est très forte. Tu as aussi Alibert Trekking, qui est un voyagiste très fort sur les grands treks et la montagne, même s'il ne fait pas que ça. Et puis, tu as une autre marque très importante dans le groupe qui s'appelle Orofun et qui est leader en Europe du voyage à vélo, qui est implanté en Autriche, en Suisse, en Suède, au Danemark, etc. etc. Bon. Ce qui fait le lien entre toutes ces marques, c'est qu'on vend des voyages et non pas des séjours. Donc, on va apprendre des choses, on va découvrir des choses, on va découvrir des cultures, des gens... etc., des paysages, et on n'est que en vente directe. Ça, c'est fondamental. La plupart des voyagistes sont vendus par des agences de voyage. Donc, vous avez des voyagistes qui fabriquent des voyages, et puis vous avez des agents de voyage qui vendent des voyages des voyagistes. Chez nous, ça, c'est strictement impossible. C'est l'héritage de Claude Salière, le fondateur de Voyageurs du Monde, qui considérait que La vente directe permet beaucoup plus haut niveau de conseil et de compétences sur le contenu du voyage qu'on propose pour des raisons évidentes. Bon. Alors, il y a des voyages qui sont facilement vendables par des intermédiaires. Prenez des croisières ou Club Med, c'est des produits packagés, c'est assez facile à être vendu par des intermédiaires. Mais il y a des voyages qui ne s'y prêtent pas du tout, en particulier les nôtres. Et nous, on a décidé que le principe fondamental de notre entreprise, c'était la vente directe de voyages qui vous permettaient d'apprendre le monde. Voilà. En gros, c'est ça notre positionnement. Ensuite, il y a d'autres éléments. On a toujours considéré que on pouvait jamais être des assembleurs de prestations. Chacune de nos marques a une très forte valeur ajoutée sur quelque chose pour le client final. Sur la marque Voyageurs du Monde, qui est la plus connue, on a des niveaux de service délirants, on a des concierges joignables 24 heures sur 24 qui sont nos salariés pendant les voyages, on a du wifi à destination 24 heures sur 24, y compris si vous êtes dans le désert de Thar ou dans le désert du Taklamakan au fin fond d'un désert, vous avez du réseau. Vous avez un contenu de votre voyage qui correspond complètement à votre propre profiling, au-delà même des seules prestations touristiques. Si vous êtes passionné d'agriculture, on vous fera visiter une ferme. Si vous êtes prof, on vous fera visiter une école, etc., etc., etc. On a énormément de services comme ça, de félicitations, de coups de fil, d'accès rapide aux aéroports, etc., etc. Mais chacune de nos marques a son ADN avec ses services et sa valeur ajoutée très forte. C'est la même chose. Chez Comptoir des Voyages, on va avoir accès à des greeters, un réseau de greeters extraordinaire dans le monde entier. Chez Terre d'Aventure, vous avez accès à des roadbooks extraordinaires avec des guides d'un niveau fabuleux. Vous allez accéder à des zones où il est impossible d'accéder sans eux, etc., etc., etc. Ça, c'est Voyageurs du Monde. Voilà. C'est le groupe Voyageurs du Monde, c'est ça.
Très clair, merci pour ces éléments. Et alors, justement, pour celles et ceux qui peut-être ne se disent, waouh, c'est extraordinaire, j'ai envie de faire un voyage également comme ça, donc le voyage haut de gamme sur mesure. Pour quel type de clientèle est-ce que ça s'adresse? Est-ce que, j'ai envie de dire, presque tout le monde peut s'offrir ce type de voyage, ou est-ce qu'on est sur des catégories de prix qui sont supérieures à la moyenne d'un voyage traditionnel?
Alors, tout le monde peut s'offrir ce type de voyage parce qu'on a une marge opérationnelle très très standard dans le secteur. On ne marche pas plus que nos confrères, on est autour de 27 à peu près. Après, il se trouve qu'il y a beaucoup de voyages chez nous qui sont chers, mais parce que c'est le choix des prestations des clients. Faites ce que vous voulez, c'est-à-dire que moi, je peux vous monter un voyage en Grèce pour 15 jours. Pour 2000 euros, comme pour 50 000 euros. Ça, c'est tout dépend de ce que vous allez choisir, vous. Alors, il se trouve qu'en pratique, on a pas mal de clientèle aisée, même si les variations de budget sont colossales chez nous, parce que je pense qu'on a un certain nombre de clients qui n'osent plus venir chez nous parce qu'ils considèrent que Voyageurs du Monde, c'est trop haut de gamme pour eux. Ils ont tort. Ils ont tort. Mais c'est la perception qu'ils en ont. Et c'est une des raisons d'ailleurs de la forte poussée de notre filiale Comptoir des Voyages, qui est dirigée de façon brillante par mon associé Alain Capestan, qui a des croissances folles, parce qu'elle permet une expérience authentique très forte, d'immersion, tout en ayant des budgets abordables, perçus, pas que réels, perçus. Donc elle cartonne également à côté de Voyageurs du Monde.
Très clair. Une autre question également que je me pose, c'est que dans la gestion d'une entreprise aussi vaste que Voyageurs du Monde, justement, avec plus de 1 000 salariés répartis à travers le monde, quelle stratégie vous avez mis en place pour assurer une bonne communication efficace, maintenir un sentiment d'appartenance parmi tous les collaborateurs, créer une culture forte finalement entre chacun d'entre eux, malgré les barrières géographiques et malgré aussi les barrières culturelles?
Alors, je dirais qu'il y a quand même qu'il y a quelque chose qui nous unit tous, quelles que soient les marques et quels que soient les pays dans lesquels les gens travaillent. C'est ce que j'appelle la valeur clé de notre groupe, qui est l'universalisme. Nous, on aime les Chinois, les Tibétains, les Palestiniens, les Israéliens, les Juifs, les musulmans, les soufis, les hindous, les blacks, on aime tout le monde, nous. Et d'ailleurs, dans nos salariés, y compris en France, on a une multitude de nationalités et d'origines. Bon. Ça, déjà, c'est fondamental. La deuxième chose aussi qui nous permet de résister à cette dilution d'âme, c'est le fait d'avoir gardé chaque entreprise autonome. Aujourd'hui, on a 1500 salariés, il y en a 500 chez Voyageurs du Monde, qui est la plus grosse. Mais il y en a 1000 qui ne sont pas chez Voyageurs du Monde. Et donc, le pire pour maintenir l'unité, c'est les 500 de Voyageurs du Monde. Parce qu'on a cloisonné. Et 500, ça reste encore, c'est moi qui m'occupe de Voyageurs du Monde, il y a une unité de communication et de lien entre nous qui est colossale. Un outil comme le mail, par exemple, est fabuleux. Quand je vais écrire à toutes mes équipes dans le monde entier, qu'elles soient à Paris, à Genève, à Lausanne ou en Mongolie, bah, d'un clic, j'en écris. Voilà. Alors, par ailleurs, on communique beaucoup. Donc, on est une boîte qui parle beaucoup, qui communique beaucoup avec ses équipes. Et puis, on a un système d'intéressement qu'on a mis en place avec Alain Capestan dès 1996, dès la première année de notre arrivée. On donne entre 20 et 30% de nos bénéfices à nos salariés, chaque année, par entité. Évidemment, ça crée, comme on a eu des résultats en plus très positifs, évidemment, ça crée un sentiment d'appartenance qui est considérable. Mmh. Voilà. Donc, on n'a aucun problème de sentiment d'appartenance. Puis, il y a une dernière chose aussi que je vous dirais, c'est que comme on est plusieurs associés, dans la plupart des marques, vous êtes dirigé par un des associés. Vous n'êtes pas dirigé par un directeur. Et quand vous êtes dirigé par un directeur, on l'associe au moins à la société.
Hmm. Ouais.
Vous voyez ? Donc, vous ne parlez pas au numéro 22 dans le bureau 32A, comme dans une grande banque ou dans une grande institution, ou ne serait-ce que les noms des bureaux ou les noms des services, DCGA anti/M, déjà vous êtes en dépression nerveuse là-dedans. Rien qu'avec le nom du service, la gueule du couloir, ces gens, pour des raisons rationnelles, ils n'ont pas compris qu'ils démotivaient tout le monde. Quoi.
Hmm. Ouais, donc une culture finalement aussi de la proximité. Qui est établi entre les salariés, les équipes et les dirigeants, les associés directement, et le fait d'avoir aussi siloté chacune des structures tout en ayant la même, le même...
Exact.
Ouais.
T'as tout compris.
Complètement.
Mais c'est un danger auquel on n'est pas à l'abri de ça. Et puis par exemple, tu vois, moi je me souviens, j'avais écrit un mail, j'en ai parlé au début de notre entretien, à Valais Synergie. Hmm. Moi, je suis radicalement contre. Et encore, il y en a encore trois à mon goût. Hmm. Parce que la tendance naturelle des humains, c'est ça. C'est les synergies, les réunions à la con, les PowerPoint débiles, et tout ce genre de trucs qui vous fait baisser la productivité et qui détruit le lien.
Hmm. Ouais. Qui fait perdre un temps considérable et qui, on a l'impression de travailler, mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui se produit.
Tu vois, dans notre filiale anglaise, Original Travel, qui est le petit voyageur du monde anglais, mmh. ils ont instauré une règle, eux-mêmes, hein, je ne m'en suis même pas mêlé, où les réunions ne durent pas plus d'une heure et sont debout.
Ok.
Parce que quand tu es debout, bah, tu n'as pas envie que ça dure.
Ouais.
Donc, tu prends des décisions.
Intéressant. Intéressant, effectivement. Et j'ai envie de rebondir également sur... sur un sujet au travers de tout ça, c'est tu disais que environ 30% des bénéfices sont du coup redistribués aux salariés pour les incentiver.
Ouais.
Le point le plus intéressant dans ce point-là, c'est que ça a été mis en place dès 1996, dès justement la reprise. Qu'est-ce qui fait que...
Et ouais. chaque année, on leur a versé entre 25 et 30% des bénéfices, chaque année, tous les ans, sauf pour la première fois en 30 ans, pendant les deux années de Covid.
Ouais. Justement, on en reparlera tout à l'heure du challenge Covid, mais qu'est-ce qui fait qu'en 96, alors que finalement, oui, vous aviez déjà de l'expérience entrepreneuriale, des résultats, mais lorsque l'on va prendre une entreprise dès le départ, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va tout de suite penser à mettre en place. Qu'est-ce qui fait que vous, directement, vous aviez la volonté réelle d'incentiver les collaborateurs à la performance de l'entreprise?
Alors, je dirais qu'il y avait, à mon avis, trois raisons, mais il faudrait aussi poser la question à mes acolytes. La première, c'est qu'on l'avait fait chez Fininfo. Et que, entre guillemets, chez Fininfo, on était dans un statut hybride de salarié associé et qu'on trouvait que ce n'était pas assez pour nous. Donc, à partir du moment où on trouve que ce n'est pas assez pour nous, sur la quote-part des bénéfices, on ne va pas s'appliquer, on va pas se refuser à nos collaborateurs, ou alors on n'est pas cohérent.
Complètement.
La deuxième chose, c'est qu'on pense fondamentalement que ça génère plus de résultats pour l'entreprise. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé, on a avec nos confrères de voyage privé, mon ami Denis Philippon, les meilleurs résultats de l'industrie du voyage depuis 30 ans.
Très clair.
Et la troisième raison, c'est qu'on est quand même des. On est tous, alors pas tous, il y en a un qui n'a pas tout à fait cette sensibilité-là, mais enfin bon, c'est un démocrate chrétien, donc en fait c'est pareil. On est plutôt de sensibilité de gauche, de la deuxième gauche, vous voyez, on est des rocardiens, entre guillemets, enfin je caricature un peu, mais. Et donc pour nous, l'intéressement, la participation, en fait on est des libéraux sociaux. Vous voyez, on est des libéraux dans le sens où on aime l'entreprise, la liberté, le pouvoir d'initiative, mais on veut que les salariés en bénéficient. Donc chez nous, c'était naturel.
Ouais, complètement. Ouais. Donc, finalement, le fait de motiver les bons éléments, la culture de la proximité, l'altruisme également fait partie des valeurs, et la méritocratie plutôt, je dirais, des valeurs également de voyageurs du monde.
Ouais, et puis c'est vertueux, quoi.
Complètement.
C'est-à-dire que après distribution de cet intéressement, et même après distribution de nos 5 ou 10% de bénéfices à notre fondation, en particulier pour les histoires de CO2, parce qu'on plante 3 millions d'arbres par an, même si par ailleurs on réduit tout ce qu'on peut en termes d'impact CO2 avant d'aller absorber par la plantation d'arbres, eh bien, malgré cette ponction, entre guillemets, à la fois sur l'intéressement des salariés, et notre fondation, après tout cela, eh bien, on est une des entreprises parmi les deux ou trois plus rentables du métier, quoi.
Extrêmement intéressant. J'ai envie de revenir aussi sur un sujet rapide. Je ne pensais pas évoquer ce sujet, mais je me permets de faire une petite divergence autour de ça. C'est en off, tout à l'heure, tu m'expliquais le fait que tu n'as pas d'ordinateur et que tu gères absolument tout depuis ton téléphone. J'ai rarement la chance d'avoir un PDG qui a sous sa gestion directe 500 salariés, en tout 1500 salariés, qui génère un tel chiffre d'affaires et qui a autant d'expérience que ça, qui gère finalement quasiment tout via son téléphone ou éventuellement son iPad. Comment est-ce que tu procèdes justement? Est-ce qu'il y a des process que tu as mis en place au fur et à mesure du temps? Est-ce que c'est un choix délibéré? Est-ce que c'est aussi dans cette volonté d'avoir d'être le plus productif possible et d'être le moins finalement sur devant un écran en train d'écrire plein d'emails ou faire plein de réunions ou autres. Qu'est-ce qui a initié cette réflexion et cette démarche?
Alors, écoute, je dirais qu'il y a à la fois du raisonnement et du tempérament, tu vois. Bon, tout d'abord, j'ai énormément de choses à gérer. Bien sûr, voyageur du monde. À un moment donné, j'avais aussi l'office du tourisme de Paris. J'étais dans le board de l'office du tourisme de la France. J'ai également cette activité où on a créé un mode, on a décliné un modèle ultra performant en maraîchage écologique, mais qui était très compliqué avec la ferme du père chez mon fils Tom. J'ai par ailleurs un tas d'activités plus personnelles. Et donc, confronté à tout ça, le réfectoriat, bon. J'ai des fonctions syndicales aussi, je suis vice-président de l'association des voyagistes. Pendant le Covid, c'était moi qui m'occupais de gérer tout le cirque des aides pour tout le secteur, parce que j'avais aussi des connexions politiques chez les macronistes qui me permettaient à la fois d'avoir la casquette entrepreneur et la casquette réseau politique. Bon, tout ça fait que j'avais énormément de choses à gérer, énormément de choses. qu'est-ce que j'ai fait au fil des années? Pendant des années, j'étais sur un ordinateur, j'avais Excel, j'avais Word, etc., etc., etc. Bon. Puis petit à petit, au fur et à mesure que j'ai eu de plus en plus d'activités, j'étais obligé de déléguer. Donc en fait, toute ma stratégie a été basée sur le fait de choisir ceux avec qui je travaille sur tous mes sujets. Et donc, je suis très bien entouré. Et du coup, quand j'ai besoin d'une analyse qui nécessite un fichier Excel ou je ne sais quoi, ce sont ceux qui m'entourent qui le font, c'est pas moi. Et moi, en fait, je passe mon temps à utiliser mon téléphone, essentiellement WhatsApp et mail d'ailleurs, c'est 90% de mon téléphone, ça, à répondre aux gens qui me posent des questions, parce que je considère que je suis PDG, mais je suis d'abord à leur service. Je ne supporte pas qu'ils attendent à cause de moi. Pour moi, ça, c'est pas possible. Et donc, je suis à la fois en réponse et en push, c'est-à-dire que j'ai des idées, que je suggère sans arrêt. Je me nourris énormément, moi, en permanence, sur plein d'outils d'information tous azimuts, et donc ça me génère des idées. Donc, mon outil, je l'utilise pour répondre aux gens quand ils ont besoin de moi, impulser des idées, et puis la troisième fonction fondamentale de mon outil, c'est contrôler que les gens ont fait ce qu'on a convenu qu'ils fassent. Et là, je me suis mis en place une organisation extrêmement efficace sur les WhatsApp et les mails qui font que il n'y a jamais un mail qui peut traîner où j'ai demandé quelque chose, où je ne vais pas le rescanner 10 ou 15 jours plus tard pour demander où on en est. Ça, ce n'est pas possible. Parce que, par exemple, dans ma boîte d'éléments envoyés, je m'astreins à chaque soir soit détruire le mail, si ça ne sert à rien, soit le garder si j'attends une réponse, soit l'archiver s'il est intéressant, mais que j'attends rien. Mais c'est une discipline de fer. Quand moi, je vois les gens utiliser leur mail, je tombe de ma chaise. Je ne sais pas comment ils font. Je ne comprends pas. Pareil sur WhatsApp. C'est un outil très rapide. Puis quand j'ai besoin de stocker quelque chose, je me le renvoie dans le mail pour qu'il passe dans ma moulinette. Mais c'est une rigueur extrême, quoi. Et puis, par ailleurs, j'ai toujours été un peu nomade. J'ai plusieurs bureaux. J'ai toujours travaillé à distance. Dans ma vie, avant que ce soit à la mode, et je travaille tout le temps, que je sois d'ailleurs en voyage ou que je sois en vacances, sachant que je ne sais plus bien ce que veut dire ce mot, parce que je mélange toujours un peu les deux. Et donc, avec cet outil-là, je peux tout contrôler et surveiller tout ce que je veux et impulser comme je l'entends à tout moment. Donc, j'ai plus besoin d'ordinateur. Sauf lorsqu'il y a une application dont j'ai va avoir besoin. J'ai cru que c'était le cas là sur le podcast qu'on est en train de faire ensemble. J'ai cru que tout à l'heure, je n'allais pas y arriver avec mon iPad et avec mon téléphone. Ponctuellement, j'ai un portable à la maison et j'ai un PC dans mon bureau. Je peux utiliser l'ordinateur. Mais c'est très rare, quoi. Ça m'arrive même pas une fois par mois.
Complètement. Finalement, entreprendre, c'est prendre les bonnes décisions, c'est anticiper et résoudre les problèmes, les challenges auxquels on fait face. Tu l'évoquais tout à l'heure. La crise du Covid, ça a été particulièrement challengeant. C'est d'ailleurs les deux seules années en 30 ans où vous n'avez pas distribué de bénéfices. Tu l'évoquais il y a quelques instants.
On a même perdu 20 millions une année.
Et justement, quelle stratégie avez-vous mis en place pour assurer la résilience et la continuité du voyage du monde et les autres sociétés face à telles imprévisibilités et face à tels challenges?
Alors, écoute, on avait des bribes de manuels de crise qu'on n'applique jamais. Tout ça ne sert à rien, en fait, si tu veux. Tu réagis en temps réel en fonction de ce qui se passe. Bon. Alors, comment on s'en est sorti? Écoute, on a perdu d'abord, pour les auditeurs, c'est pas inintéressant qu'ils sachent ça, on a perdu 85% de notre chiffre d'affaires.
Waouh.
Alors, sur une entreprise qui a 100 millions d'euros de coûts de fonctionnement annuel, c'est un peu compliqué, quoi. Bon. Alors, je dirais qu'on s'en est sorti on a fait trois choses. Bon. La première, c'est qu'on était structurellement des entrepreneurs prudents. Donc, on avait pas mal de réserves, de fonds propres cash, à peu près 60 millions d'euros. Et on avait zéro dette. On n'aime pas la dette. D'ailleurs, nos actionnaires financiers nous l'ont toujours reproché parce que c'est moins bon pour les effets de levier et les TRI. Mais enfin, en cas de Covid, ça a été sacrément utile, quoi. Bon. Et donc, on passait notre temps, Alain, Lionel et moi, à calculer combien de mois on avait en charge fixe pour tenir sans faire faillite. Bon. Alors, au début, c'était 6 mois, puis après 9 mois, puis après 1 an, puis après 1 an et demi, puis après 2 ans. Bon, bref. Bon. Ça, c'est la première chose. Évidemment, tu es beaucoup plus serein quand tu as de quoi voir venir plutôt que lorsque tu ne sais pas comment tu vas finir ton mois, quoi. Bon.
Complètement.
La deuxième chose, c'est qu'on a été totalement transparent avec nos équipes. C'est-à-dire que moi, j'étais dans le Perche, dans ma ferme écologique, là-bas, en confinement. Et puis, et mes amis associés faisaient pareil. Je faisais régulièrement des Zooms avec mes équipes. Je leur expliquais tout. Je leur disais tout, tout, où on en était, le chiffre d'affaires, la trésorerie, la baisse des coûts, etc., etc., etc. Et ça, ça a énormément fédéré l'entreprise. Hein. C'est-à-dire que j'ai eu des collaborateurs, d'ailleurs, absolument géniaux pendant la crise du Covid. Bon. Et puis, la troisième chose, c'est que, bien sûr, on a fait toutes les économies possibles et inimaginables, très, très vite, d'ailleurs, sans licencier les forces vives de l'entreprise. Ça, surtout pas. Ça, c'était la dernière extrémité au cas où on risque la faillite, mais on n'en était pas là du tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de faire des résultats 2023 absolument extraordinaires, parce que quand on avait gardé nos forces vives, notre savoir-faire et notre valeur ajoutée, et bien lorsque ça a redémarré, on a fait un carton. Alors que certains de nos confrères ont énormément licencié, ils n'avaient pas les moyens RH de faire face à la demande. Bon. Et la troisième chose qu'on a faite, et qui m'a concerné particulièrement, c'est que j'ai défendu les intérêts de la profession en discutant avec le gouvernement. Voilà. Et ça, ça a fait que pendant cette période, je crois que j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Je ne peux pas dire que j'étais toujours très serein, surtout au début. J'étais serein en apparence avec mes salariés, mais dans ma tête, je bouillonnais. Et puis, je suis parti aussi... je me suis pris pour un épidémiologiste et j'ai voulu tout savoir et tout dire et tout comprendre sur le Covid, quoi. Pour essayer d'estimer quand est-ce qu'on pourra en sortir. Voilà. Sachant que j'ai fait des études de statistiques, de maths, et donc j'ai fait des études d'épidémiologie et c'était des matières qui m'étaient familières, quoi. Voilà. Ça ne m'a pas empêché de me planter complètement sur ce que je pensais qu'allait se passer sur la sortie, hein. J'ai eu parfois raison, j'ai eu parfois tort, mais je ne sais pas bien si ce n'est pas plutôt dû au hasard qu'à autre chose, dans les deux sens.
Et, ce que...
Mais ouais. Je dirais que si je devais y retenir quelque chose de fondamental, c'est pour conseiller, si un jour ça vous arrive d'être dans une situation pareille, d'abord il faut être transparent avec ses équipes. Et puis essayer de garder la tête froide. C'est-à-dire prendre du recul. Et puis, de toute façon, c'est des situations dans lesquelles vous n'avez pas toute la responsabilité. Hein. Si demain, il y a une guerre mondiale, je ne suis pas bien sûr que les voyages vont résister. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?
Complètement d'accord. Et ce que tu as évoqué, qui est pour moi extrêmement intéressant aussi, et ça dénote aussi le fait que... ça donne un sens et ça donne du sens à tout ce que tu fais, c'est que même après toutes ces années, même après tous ces résultats, même après tout ça, alors qu'on pourrait dire qu'au bout d'un moment, on prend de la hauteur sur une telle entreprise, tu as évoqué le fait que c'est la période où tu travailles le plus de ta vie et donc tu es retourné au front, quoi. Tu t'es battu avec tes équipes sur le terrain pour pouvoir faire en sorte que les choses avancent et que les choses évoluent.
Alors, je dirais pas que je suis retourné au front parce que j'ai jamais trop lâché le front, mais un peu quand même, dans le sens où oui, je me suis mis en première ligne parce que je passais plus par mes équipes, quoi.
Complètement.
Et d'ailleurs, un des trucs que je trouvais très sympa, c'était de faire ces zooms. Je parlais pendant peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure, un truc comme ça, à peine. Puis après, il y avait questions-réponses et c'était très intéressant d'ailleurs, toutes les questions que j'avais.
Et au même moment, pendant justement la crise sanitaire, il me semble que vous avez ouvert le capital à un groupe américain notamment. Quelles ont
Exact.
été les motivations derrière cette décision et comment ça a impacté la direction de l'entreprise?
Alors, il y avait deux motivations principales. La première, c'était que les Américains nous faisaient une augmentation de capital de 130 millions d'euros. Ce qui, en plein milieu du Covid, rassurait définitivement l'entreprise, à la fois à cause du Covid, mais aussi pour son futur développement. Donc ça a été la principale motivation. Sachant que on l'a fait à un prix, bien entendu, beaucoup plus bas que pré-Covid, mais pas non plus ridicule, malgré le fait qu'on perdait 85% de notre chiffre d'affaires. Donc ça a été la première et principale motivation. Et puis il y en a une deuxième, c'est qu'on a cédé, nous, les fondateurs, une partie de nos titres, parce que on l'avait pas fait beaucoup depuis 30 ans. Et que l'âge avançant, on avait un risque patrimonial personnel trop exposé sur Voyageurs du Monde.
D'accord.
Donc en gros, on a vendu la moitié de nos actions. On en a gardé la moitié investie dans l'entreprise, puis l'autre moitié, on l'a cédée pour protéger nos familles et notre avenir. Bon. Ce qui, à 60 ans, était pas. Ou à presque 60 ans, enfin, là, certains d'entre eux avaient 60 ans, d'ailleurs, moi, je les avais pas, j'avais plutôt 58, n'était pas illogique. Et puis, surtout, on a obtenu de nos amis américains et des autres investisseurs qui ont suivi l'opération, d'ailleurs, en particulier CMCIC, qui est un très ancien partenaire, très fidèle de Voyageurs du Monde, mais aussi la BPI, qui était déjà rentré par une petite augmentation de capital 3 mois après le démarrage du Covid, hein, quand même, ça fait confiance. Et également nos actionnaires historiques, qui étaient BNP Développement et Montefiore, eh bien, ils ont accepté que malgré la cession de ces actions et malgré la dilution générée par l'augmentation de capital, nous gardions le contrôle en droit de vote. Donc, c'était l'opération quasi parfaite, quoi. C'est-à-dire que ça sécurisait l'entreprise, définitivement. Ça nous évitait d'envisager une demi-seconde de licencier qui que ce soit. Ça nous a permis d'acheter le plus grand leader du voyage à vélo pendant le Covid, Eurofun. Alors qu'on l'aurait pas fait, parce qu'on aurait eu peur, même si on avait eu les moyens, on l'aurait probablement pas fait, si on n'avait pas eu cette augmentation de capital. Et donc là, on a fait une diversification stratégique sur les voyages à vélo qui marche très fort et qui va bien avec la transition écologique, par ailleurs. Et puis, on gardait le contrôle et on protégeait nos patrimoines personnels tout en restant investis dans l'entreprise. Bon, bah voilà quoi. Les Américains, ils nous ont proposé un deal qui était difficile à refuser, quoi.
Très clair. Et tu parles justement d'un rachat stratégique. Il y a différentes entreprises à l'international que vous avez rachetées également récemment. Quelle est la stratégie derrière ces acquisitions et comment est-ce que cela s'aligne sur la vision du groupe? Comment est-ce que vous avez réussi à intégrer toutes ces nouvelles entités?
Alors, il y a la principale acquisition que nous avons faite, qui est la plus grosse, qui représente plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui va vite aller vers les 150, en croissance interne d'ailleurs, et avec des petites croissances externes, parce qu'on la complète, qui est Eurofund, qui est le leader du voyage à vélo en Europe. Celle-là, c'est un troisième pied du groupe. C'est de l'aventure, mais c'est quand même un troisième pied. Tu as le sur-mesure, tu as l'aventure, et puis tu as maintenant le voyage à vélo, qui en plus a cette vertu d'être totalement décarboné. Donc c'est assez génial, quoi. En gros, hein, c'est de la randonnée à vélo, où on te porte tes bagages. Et tu peux mélanger d'ailleurs avec le bateau, tu peux mélanger sur ton itinéraire une balade à vélo, et puis monter sur une péniche, et puis tu dors dans des petits hôtels, à droite et à gauche, quoi. Et on te transporte tes bagages. Bon. Ça, c'est de la diversification cohérente. Et puis, par ailleurs, on a acheté deux sociétés en Angleterre Ça, c'était avant le Covid. Et une société aux États-Unis pendant le Covid, qui sont des déclinaisons de voyageurs du monde ou de terres d'aventure à l'étranger, sur les marchés anglophones. Donc, on a acheté par exemple Original Travel, qui est un petit voyageur du monde en Angleterre et à qui on apporte nos outils informatiques très pointus, notre savoir-faire, etc., même si elle reste complètement autonome. On a également acheté KE Adventure en Angleterre, qui est un terre-d'ave installé dans le Lake District de la frontière écossaise et qui est un petit terre-d'aventure britannique. Et bien entendu, l'objectif de ces deux entreprises, c'est de se développer sur ces marchés qui sont plus grands que les marchés francophones. Hein. Les marchés anglophones du voyage sans mesure et du marché d'aventure sont au moins aussi grands et probablement plus grands que le marché francophone. Même si le marché francophone est extrêmement dynamique sur ces créneaux. Et dans le même registre, on a acheté une entreprise qui s'appelle Extraordinaire Journée, qui est un voyageur du monde positionné essentiellement sur l'Afrique en termes de destination aux États-Unis. Mais la stratégie, elle est simple. C'est d'essayer d'exporter notre savoir-faire à l'international, sachant que ce n'est pas simple. Ce n'est pas. On ne transporte pas une usine qui produit les mêmes voitures. Ce n'est pas les mêmes clients, ce n'est pas les mêmes demandes, ce n'est pas la même culture. Le savoir-faire de voyageurs du monde ou de terre d'âme, il se décline pas comme ça. C'est de l'humain, c'est beaucoup d'humain, beaucoup de savoir-faire. Donc, ça s'exporte pas aussi facilement que du champagne, des parfums ou des voitures, quoi. Ça s'exporte, mais pas aussi facilement.
Complètement. Et justement, lorsque tu vas faire des investissements aussi colossaux, il y a des décisions stratégiques qui sont prises, il y a de la réflexion, il y a différentes parties prenantes qui discutent. Voilà, je vais pas exprimer ici toutes les étapes de ce type de décision, mais elles sont nombreuses, elles prennent du temps. Finalement, c'est aussi de la gestion des risques. C'est indispensable pour tout entrepreneur de maîtriser la gestion du risque dans la prise de décision. Comment est-ce que toi, tu as abordé la gestion du risque dans l'intégralité de ton parcours, et notamment au plus ton parcours évoluait, parce que c'est finalement quelque chose de clé, de capital, quel que soit le niveau d'entrepreneur que nous sommes, mais qui rarement est abordé ou rarement est enseigné.
Ben, je dirais que c'est relativement facile pour moi parce que ma formation, j'ai subi une formation, ainsi que Lionel d'ailleurs, qui est l'un des associés de Voyageurs. On est des actuaires. Alors, les actuaires, qu'est-ce que c'est? C'est des statisticiens qui sont devenus des spécialistes de l'évaluation des risques. Donc, ils sont embauchés par les sociétés d'assurance, par les financiers et tout ça. Normalement, mon parcours standard, ça devrait être, avec les études que j'avais faites, d'être le mec qui calcule tous les calculs d'assurance décès chez AXA. Tu vois? Bon, c'est un peu moins sexy que ce que j'ai fait, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc, pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Par exemple, on n'a jamais voulu être que États-Unis, que Japon, que Égypte. Parce qu'on a bien vu qu'il y avait des crises géopolitiques majeures en permanence dans notre métier, ou sanitaire, ou le volcan islandais, enfin, tu vois. Donc en fait, toutes les crises, on se les prend, mais on ne se les prend pas à 100%. Donc on a essayé de répartir nos risques comme ça, et puis pareil sur nos acquisitions, si tu veux. C'est-à-dire que si on achète Eurofund 50 millions d'euros, admettons, eh bien, si cette entreprise fait faillite, parce qu'on s'est planté complètement, ça ne nous est jamais arrivé, mais enfin, ça peut nous arriver, eh bien, c'est pas grave. On n'a pas dépensé de l'argent qu'on n'a pas. On n'achète pas sur dette, nous. On peut avoir de la dette, mais très peu par rapport à notre capacité de remboursement, parce on sait qu'on est sur un métier qui est dangereux, qui est à la fois très porteur parce que la croissance est permanente dans ce métier, l'envie de voyager ne fait que croître dans le monde, mais qui à tout moment prend des à-coups. Donc, tous ceux qui voudraient faire ça à coût d'acquisition et en endettant l'entreprise de 5 à 7 fois l'EBITDA, comme c'est classique dans notre secteur, bah dans notre secteur, nous, on a toujours considéré que c'était de la folie. Donc, on ne l'a pas fait.
OK.
Donc, ça ne veut pas dire qu'on s'est prémunis de tous les risques, hein. Que demain, tu as une guerre mondiale, tu as une guerre nucléaire, tu as le Covid qui dure 5 ans. On ne s'en sort pas, hein. On s'en sort pas, hein, Alec.
Clairement.
Mais on essaye d'en éviter un maximum, quoi.
Ouais, je perçois la philosophie et je pense que c'est intéressant que tu l'évoques comme ça, qui est donc une approche beaucoup plus prudente, raisonnée, réfléchie des choses, et finalement qui pousse chaque entrepreneur qui nous écoute, que nous sommes, à avoir aussi une croissance saine, sereine et une boîte rentable, finalement. Sans pour autant, tout en gardant justement ce côté éthique et ce côté passion que vous avez su garder. J'ai envie de rebondir sur différents sujets qui te concernent aussi en tant qu'entrepreneur. Notamment, par exemple, on en parlait tout à l'heure, mais ce fameux restaurant étoilé accessible, j'ai envie de dire à tous, notamment pour les personnes qui sont en difficulté, qui est le Réfectorio à Paris. Je trouve cette idée juste extraordinaire, cette initiative juste géniale. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur quel est l'élément qui crée peut-être le déclic et qui fait que tu prends l'initiative ou tu crées ce projet?
Alors en fait, le déclic, il s'est passé chez moi un soir où mon vieux copain JR vient de dîner à la maison. Avec lui, on avait monté, ainsi que son acolyte Marc Bérébi, déjà un truc fabuleux qui s'appelait Voyageurs en Israël et en Palestine, où on envoyait les clients des deux côtés, basés sur le travail artistique qu'ils avaient fait, qui s'appelle Face to Face, qui était des portraits d'Israéliens et de Palestiniens collés les uns contre les autres qui faisaient les mêmes métiers. Allez regarder, c'est magnifique. Et donc, on a construit une offre de proposition de voyage qui allait des deux côtés, qui ne soit pas des voyages ni engagés, ni religieux, ni ethniques. D'ailleurs, des voyages normaux où on va comprendre la situation. Bon. Et donc, un soir, il vient dîner à la maison et puis il me dit entre deux plats, en 20 secondes, à la vitesse de l'éclair, comme il sait faire, il est très vif, il fait beaucoup de choses à la fois. Il me dit écoute, Jean-François, mon pote Massimo Bottura, il a monté les Réfectorio, il faut qu'on monte celui de Paris. T'es un entrepreneur, il faut que tu t'en occupes. Tu prends une stagiaire avec toi et puis elle va faire ça. Ben, il m'explique le concept, hein, donc utiliser les invendus alimentaires pour servir dans un cadre magnifique des gens en difficulté à table, avec entrée, plat, dessert, et même mignardise. Et puis leur donner de la dignité, leur faire visiter un tas d'activités culturelles aussi par ailleurs, s'occuper d'eux, etc. Bon, bref. Et écoute, je lui dis, c'est génial, allons-y, on fait ça. Sauf que bon, bah, mon JR, je l'adore, sauf que c'était pas une stagiaire qu'il fallait. C'était malheureusement moi, pendant 6 mois, à 25% de mon temps, plus une de mes directrices, Christine Graffard, qui m'a énormément aidé à monter ce projet, qui a été compliqué parce que on l'a monté dans un endroit qui est certes magnifique, mais qui était déjà multitutélaire, hein, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une association qui faisait des repas le midi, il y avait l'église, il y avait la mairie de Paris qui était propriétaire, donc il fallait discuter avec tous ces gens. Bon, bref, de fil en aiguille, on a monté ce projet, on a mis presque un an à le faire. Ça nous a coûté 5 ou 600 000 euros pour refaire le projet complet, le lieu, etc., pour le rénover et le magnifier. Et puis d'ailleurs, on est allé chercher des sponsors. Ça nous coûte 400 000 euros par an à peu près, cette affaire. Et avec Marc Bérébi, qui a pris la présidence 3 ans après moi, et j'ai continué à la garder avec lui parce que pendant le Covid, j'étais plus capable de gérer le Réfectorio. Je lui ai demandé de venir m'aider. Eh bien, maintenant, ça fait 6 ans que le Réfectorio existe et sert 120 repas par soir, tous les soirs, 5 jours sur 7, toute l'année, à part le mois d'août. Et c'est vrai qu'on est très fiers de ça parce qu'on donne de la joie, on donne du bonheur, on donne de la dignité. Lundi soir prochain, par exemple, je vais y servir, et chaque fois que je vais servir là-bas, ben j'en ressors pas indemne, quoi. C'est merveilleux, voilà. Et puis tous les grands chefs ont été géniaux, que ce soit tous les grands chefs français, quoi, ils sont tous venus, et même étrangers, Romain Médère, le chef du Crillon qui vient tout le temps, qui est génial, qui nous aide tout le temps. Mais quand on a une panne d'électricité, ou ils nous font carrément tout le repas dans le palace, ils amènent tout. Enfin bon, voilà, quoi, c'est. Il y a une espèce de solidarité incroyable. Michel Bras qui vient avec toutes ses équipes et qui de la gueule et qui vient nous servir. Rollinger, pareil. Un Anglais dont j'ai oublié le nom, ça me reviendra, qui revient, qui ferme son restaurant carrément une fois par mois et qui vient faire le dîner au réfectorio. Des Italiens, des Chypriotes, des Français, des étrangers qui vivent en France, des étrangers qui vivent à l'étranger, qui viennent au réfectorio. Des artistes aussi, hein, Mathieu Chédid, qui vient de temps en temps à l'improviste, sans que personne ne le sache, faire un petit concert pour nous inviter. JR, qui avec son énergie extraordinaire vient régulièrement avec des gens qui vont faire de la musique ou qui vont faire un spectacle. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très. Ça vous emmène, quoi. Ça vous emmène.
Complètement. Je pense que tu peux l'être justement fier de ce projet et j'avais envie de le mettre en lumière et qu'on en parle rapidement de vive voix parce que quand on en a parlé en off, je te disais, moi qui suis aussi gourmand et qui suis aussi très dans le partage, etc., j'étais bouche bée d'écouter ce projet. J'en avais entendu parler, mais je suis super content qu'on puisse en parler. J'ai envie de.
Viens faire le bénévole un soir avec moi.
Avec grand plaisir, avec grand plaisir. En plus, mon père était cuisinier, comme je te disais tout à l'heure. Bah, on va en parler sur WhatsApp tout à l'heure. Et puis, lorsque je viendrai à Paris, pardon, on planifiera ça avec grand plaisir. J'ai envie de revenir justement sur un autre sujet qui est finalement quelque chose de capital chez les entrepreneurs, c'est l'équilibre. Et le fait d'être un petit peu partout, en l'occurrence, tu as énormément d'activités, tu as énormément de responsabilités, et ce depuis de nombreuses années. Un sujet d'actualité aussi, c'est que récemment, tu as quitté ton poste de président de l'Office du tourisme et des congrès de Paris, car tu avais, je cite, trop de responsabilités. Qu'est-ce que cela signifie pour toi et comment cette décision s'inscrit dans ta vision et la gestion de ton temps et de tes engagements?
En fait, j'ai beaucoup de responsabilités parce que j'ai beaucoup de passions. Bien sûr, voyageur du monde, la révolution agricole avec la ferme du Perche, on a sorti un modèle incroyable qui produit plus de légumes qu'en agriculture conventionnelle, alors qu'on est en bio et qu'on est même en écologique parce qu'on va plus loin que le bio. Et puis, le fait que je commence à vieillir aussi quand même, avec, hein, j'ai 60 ans. J'ai par ailleurs plein de passions personnelles, des jeux de stratégie, apprendre le grec, monter un hôtel éclaté complètement innovant en Grèce, des engagements écologiques très forts dans les think tanks ou ailleurs. Bon, bref. Et donc, j'ai trouvé que le temps que je passais dans les institutions publiques était trop important par rapport aux résultats que j'en obtenais. C'est-à-dire que quand tu es dans une institution publique, l'Office du tourisme de Paris, Atout France, dont je suis toujours administrateur, ou l'Association des voyagistes, etc., tu as une inertie du collectif naturel, quoi, si tu veux. Et pour un mec impatient, entrepreneur, qui veut des résultats tout de suite, c'est une souffrance. Et en même temps, comme je ne voulais pas lâcher, bon, par exemple, on a réussi quelques trucs, on a lancé un outil de billetterie global pour permettre aux gens d'avoir à la fois leur mode de transport et leur mode de spectacle sur un même outil, qu'il soit parisien ou étranger. On a changé le nom, ça s'appelait OTCP, mais enfin, c'est pas possible, un truc pareil. Donc, on l'a appelé Paris, je t'aime. J'ai pas réussi à convaincre le président de la République ou les différentes personnes en charge. D'Atout France, de changer ce nom épouvantable et de l'appeler à la française, un truc qui donne un peu envie aux étrangers, quoi, de venir en France. Bon, bref. Donc, j'ai décidé de me couper de toutes mes fonctions institutionnelles et d'arrêter. Quand ils ont besoin de conseils, je le fais. Je suis resté dans le board puisqu'ils m'ont demandé. Mais si tu veux, ces fonctions institutionnelles, ce n'est pas un problème de sensibilité politique, hein. C'est que les organisations génèrent l'inertie. Et ça me prenait trop de temps, trop d'énergie, pour des résultats que je ne trouvais pas à la hauteur, donc j'ai décidé de les mettre de côté. Et de toute façon, à 60 ans, il faut que je commence à gérer ma décroissance, moi. Hein. Voilà, c'est la génétique, hein, qui veut ça, hein. Pas beaucoup de choix, hein.
Et pour beaucoup d'entrepreneurs, trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ça peut être compliqué. J'en fais partie. Dans ton cas, quel conseil tu donnerais pour maintenir un équilibre tout en dirigeant une entreprise en pleine croissance, quel que soit le niveau de son entreprise finalement?
Écoute, je suis pas sûr d'y être complètement bien arrivé parce que mon entourage personnel me reproche d'être toujours sur mon téléphone et on comprend bien pourquoi avec la façon dont j'utilise cet outil. Puis je suis un passionné, donc être passionné et puis faire les choses à moitié, moi c'est pas mon truc. Je supporte pas ça. Maintenant, j'ai pas trop mal réussi non plus parce que je suis très bien entouré, très 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 bien entouré, et que je sais me reposer. C'est-à-dire que même si je travaille, si je travaille à distance, ça me repose plus que si je suis au bureau. Si je suis dans ma maison de campagne et que je travaille à distance, ça me repose plus que si je suis à Paris, etc., etc., etc. Et que je me réserve des moments privilégiés avec mes amis, avec mon épouse, avec mes enfants, avec ma famille, voilà. Mais c'est un équilibre qui est compliqué parce que la passion et l'envie de rien lâcher, de toute façon, va vous bouffer un peu sur votre vie perso. L'entrepreneur qui a aucun problème d'équilibre entre sa vie perso et sa vie pro, je suis pas sûr que ce soit un très bon entrepreneur. Je suis pas sûr. Faut accepter que ce soit comme ça. Faut juste pas que ça aille trop loin, quoi. Tu vois, moi j'ai un de mes amis, Christian Sabag, qui est un entrepreneur incroyable, qui a des entreprises dans l'informatique du voyage. C'est un type qui bosse sans arrêt, qui bosse tous les soirs jusqu'à 23 heures. Mais quand son épouse est là, ou quand il est avec ses amis, il coupe. Donc je trouve que il a plutôt bien réussi ça, tu vois. Nadir que tu as reçu, c'est un mec qui travaille énormément, qui met une énergie folle dans ce qu'il fait, mais qui sait aussi se réserver des moments pour lui. En famille, il va en Bretagne, il travaille à distance, il part avec nous, on est parti au Pakistan, tu vois, tous les trois, pendant 10 jours, on a réussi à faire ça, quoi. Tu vois, bien sûr, on bossait un peu avec nos téléphones et nos outils, etc. Mais on bossait pas beaucoup, quoi, tu vois, on bossait à 15-20% maximum. Je pense que c'est très personnel, ça. Mais je pense que l'équilibre absolu, je suis zen, tout va bien, je suis cool, et j'équilibre tout ça parfaitement, moi, j'y crois pas une seconde.
Complètement. Et ouais, donc c'est finalement ce concept de 100% off, 100% on, et d'être pleinement présent pour ceux qui comptent ou ceux qui comptent.
Ouais, voilà. Tu vois, par exemple, moi, je supporte pas bien qu'on soit à dîner entre amis ou en famille et que les gens prennent leur téléphone, même si ça peut m'arriver à moi aussi, hein. Mais j'ai tort. Et je fais en sorte que si je fais une partie de cartes avec des amis et que les mecs sont avec leur téléphone, je trouve ça complètement insupportable, quoi. Ça bousille tout, quoi. Tu vois? C'est pas simple parce que moi, je pense que pour être un bon entrepreneur, c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Il faut être passionné.
Complètement.
Et si on est passionné, il y a des conséquences sur sa vie personnelle. Il ne faut pas se raconter d'histoire.
Ouais, on est aligné. Et ouais, on est complètement aligné. Merci, merci pour ça. Merci pour tous les éléments que tu as partagés. J'ai une dernière question pour toi, la question que je pose à chacun de nos invités qui passe sur le déclic justement. Mais avant ça, j'aimerais te remercier et inviter nos auditeurs également à nous exprimer leur retour à l'égard de cet épisode et je les invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme de streaming sur laquelle ils nous écoutent. Si vous avez eu autant de plaisir que je n'en ai eu à animer cet épisode, et merci à toi Jean-François pour ça. Et j'oublierai pas, on va se contacter pour que quand je viens à Paris, j'ai une semaine prévue à Paris, je viendrai avec grand plaisir servir à tes côtés. Ma question, c'est la suivante. Parmi tout ce que tu as pu nous partager, est-ce qu'il y a finalement un déclic ou un élément qui a littéralement créé une transformation, je dirais presque identitaire chez toi, que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, que tu n'as peut-être encore jamais partagé dans une interview et que tu aurais envie de partager ici auprès de nous? Ça peut être une simple phrase, ça peut être une situation, une citation, quelque chose de positif, quelque chose de moins positif, peu importe, mais finalement... quel est le déclic que tu as envie de nous partager? Tu as carte blanche pour le mot de la fin.
Écoute, oui, il y en a eu un et qui m'a habité sur de nombreuses activités depuis. Quand j'ai traversé le Sahara, j'ai eu un véritable choc esthétique.
D'accord.
Et l'esthétisme est devenu une valeur cardinale de ma vie. À la fois chez Voyageurs du Monde, où l'esthétisme de tout ce que nous faisons, nos agences, nos catalogues, notre site web, nos emailings, est un vecteur de communication de la vérité profonde qu'on veut transmettre des voyages qu'on propose. Donc c'est devenu presque une obsession chez moi, l'esthétisme, chez Voyageurs du Monde en tout cas. Mais également dans la ferme du Perche, parce que si on veut donner envie aux gens de devenir agriculteurs, on n'a pas envie, ils n'ont pas envie d'être dans un environnement dégueulasse où tout est dégueulasse, mal rangé, etc., etc. Et la ferme du Perche a pour vocation de devenir aussi une ferme très esthétique. Elle en prend le chemin d'ailleurs, au-delà de sa rentabilité, de son modèle alternatif, etc. Mais également dans ma vie personnelle. Et ça, c'est quelque chose que je partage avec mon épouse Nathalie, que ce soit dans notre maison parisienne ou dans notre maison de campagne. L'esthétisme et le confort de vivre dans l'esthétisme est crucial pour nous. C'est presque spirituel. Sans pour autant être un musée, hein. Surtout pas un musée. Hein. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas réussi vraiment à faire passer, par exemple, dans les institutions publiques dans lesquelles j'ai pu intervenir, qu'on a évoqué tout à l'heure. Parce que la plupart des hommes et des entrepreneurs sont utilitaristes, d'abord, et sous-estiment le poids de l'esthétisme sur des éléments non mesurables, en particulier donner envie. Donner envie. Je pense que la magie qui existe toujours autour de la marque Voyageurs du Monde, elle vient grandement de ça. Et par exemple, de la rénovation extraordinaire que nous avons menée de notre fameux bateau Steamship Soudan sur le Nil, qui n'est pas un bateau de luxe, du tout, qui est un bateau juste pur, mais dans lequel tout le monde a envie d'aller, quel qu'il soit. Et c'est ça, je crois, qui m'a conduit, qui m'a beaucoup porté dans ma vie entrepreneuriale et personnelle.
Merci Jean-François.
My pleasure.